Mot-clé 6, entrée et sortie. Entrée et sortie de nos impressions et images mentales. Mot-clé 6, entrée et sortie, séquence 1, position de la lunette de présence et d'entrée en mode de lecture et décodage. Le concept d'entrée et de sortie des impressions et des images mentales est délicat à développer et représente comme des unités de lecture prise en compte implicitement. Je ne peux détailler là son niveau d'implicite dans ces opérations, mais je vais là en indiquer quelques lignes ou quelques temps, ce qui équivaut déjà à des formes et des types d'opérations, bien que je ne puisse pas là les traduire en mode écran. Elle implique cette notion d'entrée et de sortie des images mentales implicites, une ou des grilles de codage et de décodage, simples ou superposées, dans leur mode de réception fondamental, fondamentalement comme ce que j'ai précédemment évoqué, et qui implique de concevoir des unités images de constante et de temps. Dans l'ensemble de cette grille mentale d'entrée, en mode de traduction et de perception, ou de retraduction des convergences de perception, on peut dire que cela joue ou se passe dans le sens de faire face ou front aux images et aux impressions entrantes dans notre champ de présence et de perception. En tout cas, cela joue ou se joue comme tout comme dans nos espaces d'entrée et de conscience, et dans le sens de comprendre ce qui rentre et continue de rentrer ou d'être le flot et la permanence des images réalisées. Puis s'organise le plan d'impact de souvenirs et de sensations immédiates et de retour, comme séparant deux scènes de réalité et présence, une avant et une arrière, à l'intérieur de quoi nous devons nous situer. L'ensemble de cette production et du turnover d'impact et de situation s'organise dans son turnover et son écran de présence et de renouvellement en mode d'unité de type quelque peu rigide, de persistance ou de constance de réalisation. Ce qui impacte les images et sensations du corps et les images et résultats de ces états, au moins implicitement. Soit potentiellement en mode moteur et psychomoteur ou en grande roue de sensations motrices-psychomotrices, producteurs et productrices. Ce qui implicitement représente du mouvement sans bouger, encore du temps, ou du mouvement immobile, voire suspendu. Donc d'avoir, dans un contexte et une situation d'ensemble réalisé, d'abord une formation et une information image première globale, en mode de perception, de présence, de type grand panneau émotionnel, sensitif, sensoriel, corporel, assemblé, soit une formation et information de type essentiellement kinesthésique, comme des mouvements ressemblant à des mouvements ou en termes de mouvements du corps, mobile ou immobile, en espace de changement ou de mouvement, de perception de mouvement mental. Et comment se différencier les changements des états du corps et de leurs résultats, et la corrélation avec les informations neurales et neuronales est une affaire d'état et d'étage. Et quel est le rôle des images mentales officielles et de leurs changements sur les états du corps et les états des images, des schémas du corps, c'est encore là une vision complexe et une autre vision. En tout cas, les mouvements de type kinesthésique ou mouvement et sensation de mouvement semblent avoir un haut pouvoir d'évocation et de simulation interne, comme l'évoque le grand spécialiste de recherche sur le corps et le cerveau, Antonio Damasio. Je renvoie notamment au passage où il parle du codage des émotions en mode de représentation potentielle et le rôle de dominant de l'hémisphère droit dans le domaine, et toujours dans le même livre, L'erreur de Descartes. Ces items donnés ou entrés organisent de la conscience qui a un haut pouvoir mimétique au sein du suivi et de la prise de conscience de ce qui est et du déroulement. D'autant qu'on n'est pas sûr des impressions qui se forment et qu'on perçoit, et qu'elles se traduisent en pensée, image, sensation, avec leur organisation, mais aussi leur évanescence et leur fugitivité, c'est-à-dire en reprise par les fonctions mentales supérieures et en aperçu en face des images de conscience et de présence qui fuient et se forment. De plus, dans ce pactage et dans son fait de présence et d'assistance, on perçoit souvent qu'on a envie ou besoin d'en dire quelque chose, et ou de se dire quelque chose, comme d'un mouvement, ou d'en exprimer quelque chose qui sorte de son espace proche de perception, sans oser pouvoir directement franchir le pas de dire ouvertement ce qui vient dans sa pensée ou son mode de pensée, présence officielle. Ce phénomène d'inhibition et de frein, dans son ensemble de présence et assistance, est éminemment physique. Il mérite d'être analysé plus car il contient beaucoup de choses sur les données de présence, d'émotions, sensations et de corps, et des formes de réalisation que nous avons qui se forment en nous, et leur fuite des unités mentales qui se forment même fugitives, mais aussi leur contenu et contenance. Et de plus, comme doute qui s'ensuit sur la réalité des phénomènes, de son assistance, de sa forme de présence, ou des scènes ou thèmes de réalité, constituant et composant à la fois sa présence et son être et étant de celui qui assiste. Cela, dans sa ou ses consciences en boule de présence, et dirais-je, en caméra assistance et présence dans le cadre de son propre champ. Voilà le grand tableau image que je veux former. Ce secteur forme un fond d'images et d'informations à considérer en propre sur notre écran et fond d'écran des perspectives. Images et visions et perspectives en mode présence et assistant qui se renouvellent ou se fixent et aussi, pour ainsi dire, peuvent nous fixer, comme on dit qu'on écarquille les yeux en état d'amorce de stupeur ou de grande émotion. Images, perceptions, impressions et séquences qui peuvent se confirmer ou s'invalider, comme un temps décisif ou suspendu, ou un grand train de séquences de vécu et de séquences émotionnelles, ou à grande charge qui se présentent. Il faut, pour mieux comprendre et rentrer en phase d'analyse et de codage de tout cela comme grand concept image, et donc dans les phénomènes de réception et la fenêtre de présence qui est la sienne dans notre fenêtre ou fente de réception, et qui en bonne partie nous représente et nous concerne. Eh bien, cela, dans notre projection et rapport au dehors, il faut rentrer pour cela plus avant dans un espace que je qualifierais de relativité restreinte, dans l'effet d'image et de perception et de présence, et par là, dans des images et modes d'image et de codage prenant plus amplement en compte les temps mentaux ou leur timing, par le rythme, mais aussi dans et par ces grands panneaux images qui se forment et s'instituent plus ou mieux, en poser les formes comme des formes stables ou de redondance qui se renouvellent ou peuvent se renouveler ou se stabiliser comme à l'identique, voire comme des certitudes de réel et de retour. La forme de plasticité du fonctionnement mental me paraît résider dans cet arrière-fond, car nous avons tendance à imaginer, croire et recevoir en forme d'unité et d'identité rigide ou de type constant, les unités de réalité qui nous arrivent dans notre fenêtre de perception en mode d'émotion et de subjectivité première ou d'avant-scène. Ces unités, en forme d'identité ou de constante, se représentent dans leur forme de rigidité et d'identité, et notamment comme image et représentation potentielle de soi. On pourrait plus là examiner les formes de rigidité réalisées, mais il faut avancer dans la description, et sans compter les imageries de personnages psychologiques. Dans l'opercule de la fenêtre de présence et de traitement des données de scène, de présence et de réception, dans leur regroupement, traduction et encodage, ces énoncés, dans leur présence et type de présence, d'une part, leur traduction image et dans leur admission incidente, présentent en soi des caractéristiques qui demandent à être précisées ou établies. Et cela, sans prendre en compte le phénomène qu'on peut appeler réflexivité, en mode de réalisation d'image ou d'impression, et qui est important à considérer. Ces énoncés en soi, donc, demandent à être établis, examinés, comme données et mises à plat, comme indépendants en bonne partie leur contenu et leur occurrence, d'une part, et d'autre part comme des items de présence et de présentation, se tenant à une certaine distance de ses capacités de les réaliser, comme nommément, distinctement ou consciemment, pour ce qu'ils sont et comme ils sont, ou pour ce qu'ils seraient. Ce processus d'abstraction en soi est très puissant et demande de concevoir des espaces de prise en compte appropriés, soit espaces où les choses peuvent être et s'envisager comme espaces propres de persistance et de traduction. Mot-clé 6, entrée et sortie, séquence 2. Les unités mentales à distance. Nous pouvons examiner maintenant les unités mentales comme à distance suffisante et comme assis devant un bureau et à bonne distance d'observation et les observant être et défiler. Et avec le schéma d'avoir de quoi traduire en mode d'écriture ou de dessin rapide ces impressions comme en mode de langage continu, image et juste en perspective de sensations et d'impressions capté, saisi. En mode de traduction sensation sur cet autre espace qui serait identificatoire, la feuille sur laquelle on dépose très rapidement tracer quelque chose. Espace fuyant, mais réalisé comme on voit le nom de rue qu'on essaye de lire à la volée, dans un taxi par exemple. Un nom étiqueté image, pouvant correspondre, figurant la traduction en impression image et en digital mental, comme on dit maintenant, de ce que le cerveau cherche à stabiliser, identifier, capter, que nous prenons par exemple comme une intention de lire ou de pouvoir comprendre, ou comme voulant suivre le tableau dans la réalisation des successions d'images. Comme un langage mental de type hyper-économique, pouvant articuler son besoin de représentation supérieure et de maîtrise mentale et corporelle de ses impressions et vécu corporel. Surtout, par exemple, si on ne conduit pas, par exemple, et représentant comme une boucle de traversée corps-cerveau avec réflexion ou réflexologie en mode de codage, boucle de sortie, que nous sommes en train de réaliser si nous suivons le changement dans la route et le paysage, sans connaître totalement, par exemple, le trajet, les étapes au préalable, ou n'étant pas totalement sûr de les connaître ou reconnaître. Voilà le schéma boucle frontale minima et économique de présence, réalisé dans les formes de contrôle, de succession et de traduction qui sont attendus et dont on peut donner un équivalent psychomoteur mental à prendre en compte dans les schèmes de réalisation et de sortie. En fait, comme en traduisant et gestant avec son corps, mais sans rien dire, en réalité, dans un premier temps, de retour de sa boucle de sortie. Et cela, c'est selon ce modèle de schéma premier et primaire et rebouclant que nous pouvons réexaminer les énoncés images dans leur forme d'entrée et de sortie, comme en mode primaire et premier, et l'attente de leur traitement en mode performance. Non sans remarquer que cette transitivité de traduction réalise en sa forme et sa ou ses boucles un type d'énoncé qui représente au moins deux choses assemblées à la fois dans leur fusion, dans ce tunnel des traversées et des réalisations. En mode de traversée, boucle image, et émergence-réémergence, quelle qu'en soit la conscience ou la rétention apparente dans le résidu et résultat. Une forme réalisée de conscience métaphore-image, réalité, entrante, qui inclut dans cette image son soi. Ou encore, une image d'image qui est de conscience, mais aussi rend conscient et demande d'être informé. On peut lui donner une forme algébrique et dépasser l'idée du contenu et de la rétention pour concevoir et manier son usage, ou son type d'unité, comme exigence, permanence ou manifestée. C'est là ou l'équivalent d'une première commande mentale. L'ensemble, en mode entrée, traitement en boucle et boucle de sortie, en forme d'unité, de cohérence, de conscience, de traitement. Elle équivaut à une marche en avant et à un changement de contexte et de paysages au sein de ces changements et résultats d'état de conscience. Voilà une seconde considération d'encodage et de prise en compte du turnover mental dans sa présence. On peut appeler cela la motricité point de vue immobile ou sans mobilité dans les données des images de la conscience de soi. Nous pouvons examiner ces énoncés et en faire une traduction de traces et d'existence en termes d'occurrence et d'existence pour leur présence et leur occurrence, et comme au-delà de leur réalité phénoménale, comme je l'ai déjà dit, mais dans leur présence et type de présence, dans la présence et le turnover mental et leur réalisation. Nous pouvons leur donner une réalité comme dans des espaces algébriques en soi, de façon traduite pour la distance ou l'arrière-fond et le transfert, et dans une forme d'espace qui n'est pas littéraire ni littéral, mais de transformation et de changement. Mais où les formes et les choses prennent leur allure d'avoir été dans les formes et images de la conscience de soi, et ce qui n'en conteste plus l'existence. Et c'est aussi ce genre d'énoncés, dans leur marche et leur démarche, représentant la personne, que nous interrogeons comme des formes représentatives stables, et que du moins, elle se doit à elle, et de se les donner. Mots-clés 6, entrée et sortie, séquence 3. Considération de présence des énoncés de réalité et de pensée. Nous interrogeons ces énoncés de présence attachés à la personne et à ses formes d'état et de conscience et qu'elle peut produire et comme renouvellement de paysage et d'état, mais pas n'importe comment et pas sans condition de compréhension et de mise en forme dans les métaphores images de conception et d'assemblage. On peut considérer ces énoncés comme des formes d'inconscient ou d'inconscience dans leur forme de stabilité image et comme compactant de l'espace-temps, c'est-à-dire comme des réalités de pensée qui ont leur forme d'abstrait, d'abstraction ou d'intemporalité ou d'atemporalité par rapport au monde des perceptions communes ou comparables qui représentent un ou des autres espaces, dont des espaces de représentation et d'imagination mentale qui peuvent être très codés et très conventionnels, et où, en rapport réalité-représentation, réalisé dans leur ensemble, avec ce que la personne peut en savoir, en connaître ou en traduire, et qui lui constitue comme des formes de propriété ou d'avoir. Et c'est aussi cela, et en cela, et avec cela que nous devons accueillir les personnes porteuses de leurs conditions, qui ne savent, ils ne peuvent spontanément, ni vraiment, et sans condition, rentrer en interlocution et en rapport avec leurs états et les réalités de ces derniers et leur vécu, c'est-à-dire en affirmation et en expression, mais aussi en appropriation de soi dans et au travers d'autres sociaux, espaces et situations. En mode de soi, mais en mode de corps et d'existant et de pensée, et en boucle de réalisation et de constat, et de penser comme acteur vivant et présent de soi, pouvant se référer à lui dans sa forme d'existence, ou ça et ses références existentielles, soit constituant une sorte de boucle complète sur sa présence et s'incluant dans sa forme et ses prestations de présence. Et je pense que cette opération involontaire de corps et de pensée que peuvent faire les personnes ou qu'elles peuvent nous faire faire, n'est pas vaine dans ses formes, réalisations et encodages, pour examiner en quoi consiste notre écran image de réception et de perception, et nos modes et formes de réception, dans ses intérieurs et ses négociations. Encore faut-il imaginer l'espace de transfert et de traduction dans ses formes de réalisation à distance et en présence. Ce qui demande vraiment des capacités de représentation et de présence dans l'espace ou l'imagination de ce dernier. Réexaminons ces énoncés comme présents, plein champ, dans notre présence de corps et aussi de pensée et de perception. Les énoncés comme endurs ou les résultats des perceptions comme données et séquences dans l'espace des réceptions et des constats ou leur rapport aux données et réception du corps, et leur modulation. Ce qui est un fait est une chose, mais dans la lunette des présences, et de traduction, et de transfert, et traitement des données, au sein des présences, il faut examiner cet espace en propre, dans ses modes de transfert et de traduction, ses modes et puissances de capacité de réalisation transitive. De plus, il faudra envisager en soi les processus vers cet espace de traduction qui reçoit ses énoncés de contexte, présence et réalité, et comme en raide, dur et direct, il les recode à sa façon, dans son espace de corps et de réception, et dans son univers de conscience-image. Et donc il faudrait qu'on bascule dans l'autre lunette mentale, ou lunette mentale de fond, ou d'arrière-fond, comme prenant de la distance et réalisant de l'espace en mode de traitement et de gestion des données, et pour l'examiner en propre comme des traversées et des transitions. Et toujours en mode abstrait et formel, et comme en indépendance en premier lieu des contenus, comme réception ou dans la forme des réceptions, dans la fenêtre des données et en rapport avec les résultats. Dans cette autre fenêtre de notre présence et cette traversée ou conscience, nous ne pouvons pas être en permanence et de plus, nous devons acquérir le sens de l'intermittence. Là, les énoncés basculent comme information, savoir, type de savoir, dans leur traduction, transposition d'espace de données et dans leur réalisation. Et la formalisation qu'on a appelée l'inconscient, ou le savoir et les données de l'inconscient, depuis les travaux de Freud, leur poursuite et notamment le grand travail de formalisation réalisé par le docteur Lacan, correspond pour moi à cette notion qui s'est transmise dans le savoir ou l'opinion des personnes cultivées, dans les nouvelles formes de mise en conscience et de données des énoncés, dans le mode de traduction des énoncés, en mode plan, plan fixe et arrière, fond de sa présence. Nous pouvons interroger comment se traduisent ou peuvent se traduire les énoncés en dur, c'est-à-dire les énoncés qui se présentent comme des constantes et des menaces de perception ou de choc émotionnel imminent ou de reconduction. C'est dans et au travers cette fenêtre de l'intensité de la limite émotionnelle apportée par les perceptions ou leurs menaces, dans cette fenêtre du dur ou de l'insupportable, qu'il faut examiner non seulement les phénomènes des défenses intenses de type vital sur l'immédiat, mais leur mode de traduction et une structuration en forme d'énoncé pour le long cours, ou peut-on dire pour le destinal ou le fatal. La traduction ou les énoncés, peut-on dire, de conscience immédiate pour le long cours, dans leurs arrangements et réarrangements, se font totalement à son insu et au-delà du contrôle de l'écran de la volonté et de ses représentations de conscience. Cela se fait par un phénomène modèle qu'on peut appeler ou désigner par le terme de transduction, utilisé de façon si intéressante en biologie pour comprendre et parler des phénomènes de transfert de signal en rapport avec leurs vecteurs et prise en compte à partir de cibles motrices et réceptrices. C'est ce que nous allons examiner quelque peu, mais comme fenêtre et cadre formel, dans l'espace de transposition et traduction que je vais examiner. Mot-clé 6, entrée et sortie, séquence 4. Forme du processus de traduction et de transduction. Progressons dans l'image et le schéma que je veux donner en mode de vision progressive. Pour trouver une voie de prise en compte de nos codages, prise en compte des modes de traduction, et sous quelle forme sont traités nos énoncés, et comme pour du long terme ou de long parcours, et comment les traduire dans notre lunette mentale, et je dirais dans notre opercule, il faut prendre en compte des espaces de traduction, les espaces de présence, les espaces de transition aussi et de traduction intermédiaire à l'intérieur des temps de présence et des compartiments, disons, de traduction. De ce point de vue, ou éventail de considérations en soi, on peut dire qu'il peut être formalisé. Nous allons un peu complexifier l'approche de ces notions et l'approche des images de conscience et leur forme de présence ou de présentation en mode ou imagination de mode plan, comme des formes incluant d'une certaine façon leurs propres commentaires ou leurs propres notions, voire leur intelligibilité comme j'essaie de l'exprimer. Et d'autre part, en fait d'entrée et de sortie, on conçoit que l'entrée et la sortie ne sont pas si simples et si univoques que cela dans la boucle du traitement de nos présences, et comme constituant des résultats, des formes de récapitulation en conditionnant les états de nos présences, de notre être là et de nos perceptions. Ce mouvement comme rétrograde et comme à rebours pour réaliser les états dans les moments, les séquences, les états d'ouverture, de présence, de perception à son corps, à soi-même, à autrui, conditionne aussi les formes d'entrée et donc aussi implicitement les formes de sortie au sens du traitement de ces données au travers de sa situation, de sa présence conçue comme globalisée. On peut donner et se donner des représentations intervenant par plan, par paquet, par séquence d'images ou par séquence de représentations, comme on visiterait un grand espace à plusieurs compartiments. Mais si on parle de façon générale de représentations comme des objets, dans la manière de les parler penser, on ne distingue pas assez les données en mode subjectif et personnel, propre, en part personnelle, selon moi. On parle comme étant en scène et hors scène. C'est cette forme de duplicité constitutive, potentielle, qui se manifeste dans les scènes comme présence, en scène officielle, dans les formes d'officialité de ses comportements, de sa présence, de ses façons de concevoir, de recevoir et de présence, et comme cela, et comme d'un bout à un autre, d'un tunnel, d'une forme de tunnel invisible mais potentiellement présent. On peut se donner une approche cadre dans le cadre de sa subjectivité propre personnelle comme étant en quelque sorte toujours en transfert et en jeu, et comme une forme de dialogue, au moins implicite, de retour et de retrouvailles de soi dans le symbole et le cadre de sa subjectivité, et comme un face-à-face avec son double, ou en quelque sorte d'une sorte de voyage dans l'espace. On peut prendre cette grande représentation, boule en soi, comme je l'évoque, comme boule ouverte et symbole de soi, et de la représentation et de la présence des types de conscience et images de soi dans son évolution. Ce type de représentation et forme de conscience ou idée d'image peut être intéressante par ailleurs, comme conscience ou mode de conscience des plans, des séquences de temps, de réalisation et des distances. Soit, peut-on dire, il existe une certaine distance, une certaine épaisseur, une certaine opacité pour être ou avant d'être, comme en conscience et en rapport de conscience et de rapport de soi avec soi-même ou avec ses objets de conscience ou de vision. Le théâtre classique nous en donne de merveilleux exemples, la vie se débattant et semblant se faire en direct, comme sous nos yeux. Mais aussi, on peut considérer que cette scène est rapport de distance, où on peut songer ou rêver sans s'atteindre, est dans son envers et comme à distance, ouvert, sur une autre scène de présence, plus ou moins saisissable ou non saisissable, qui est inclue, celle de sa présence et de ses modes, voire de ses rôles, dans les rapports aux autres et dans les rapports internes à soi-même. Qu'est-ce qui en est réalisé? Qu'est-ce qui en est recyclé en mode de face à face et de conscience rebouclée, reconstituée en propre dans son modèle et dans sa forme d'évolution? Et la question qui me semble à cadrer, former ou formaliser sur une sorte de grande cadre scène des entrées, des présences, pour pouvoir aussi exprimer ce que c'est qu'une sortie ou une forme d'expression et un remaniement de son état de conscience à partir d'une situation modèle donné. Voir sur le fond examiner ses présences de réalisation et dans des décalages qui sont suffisamment importants pour pouvoir réaliser ce type de vision de perspective. Ce type d'approche que je présente comme succession d'états de conscience et de scènes et de mode de présentation, recadrage et synthèse, à recycler en mode de synthèse et de conscience de soi et en mode complètement personnel, voire solitaire, individuel, comme image et comparaison, me semble un modèle intéressant à constituer comme symbole et approche. Symbole voulant dire représentation indirecte, au sens de quelque chose représentant toujours quelque chose d'autre, comme un objet, un moyen médiateur, dans une sorte de rapport aux présences et aux autres éléments de pensée ou de présence qui demandent aussi des espaces de médiation et d'intermédiation nécessaires. Ou encore, pour cadrer les idées, les représentations, qui n'ont de valeur que dans la mesure où elles nous mettent en rapport, en correspondance avec quelque chose qu'elles nous lient, qu'elles nous relient, que nous ne pouvons pas nous représenter ou imaginer en direct, dans la seule fréquentation de la vie et de la vision du déroulement des perceptions quotidiennes. Ou encore, on peut considérer que les représentations sont des formes de conscience-image. Mot-clé 6, entrée et sortie, séquence 5. Donc, poursuite de l'élaboration. Alors, titre, redéroulement des modes de conscience-image. Donc, il s'agit de continuer et d'accroître la vision-image. Et l'approche que je présentais est difficile à conceptualiser, mais je pense qu'elle présente des avantages, et notamment comme des recto verso et des formes inverses images et leur mode de progression ou type de succession. Elle demande de prendre en compte plusieurs registres de traduction, leur somme, leur assemblage, leur intégration, leur mode de résultat à partir de l'espace actuel, du champ des perceptions, d'un champ de présence, son mode de modèle, son mode de construction, sa forme d'imagination et de représentation, et la forme des états de présence et de conscience réalisés dans le cadre des états de conscience subjectives de la personne, mais qui rendent compte aussi d'un certain nombre de schémas cadres de réalité. D'une certaine façon, et comme paradoxalement, les états de conscience de la personne ne changent pas, mais se traduisent par des scènes officielles, globales, ou officialisantes, ou externalisantes, qui ont cependant leur fond et leur arrière-fond, et qui ont leur objectivité sous leur forme, et qui, en bonne part, objectivent, en quelque sorte, la personne, dans l'étendue de sa représentation potentielle. On peut alors reprendre la formalisation et le regard sur la constitution des plans et états de conscience de la personne de la façon suivante, et en l'approchant ainsi, au travers de grands schémas images. Les énoncés images, comme cadres et découpes, se constituent comme des espaces de scène ou de transition de scène, avec une avant-scène comme déclarative officielle et une acceptation de se manifester comme au grand jour ou d'exister. Et ces arrière-plans ou ces arrière-scènes et ces formes de dérobé et d'obscurité, l'ensemble constituant des segments, des compartiments distincts d'une grande architecture séquentielle. Nous pouvons alors considérer que nous sommes confrontés en moyenne à des formes de temps, de comportement et d'espace qui réalisent des formes d'évidence dans le rapport et la constitution des présences, ou que nos images de comportement, implicitement, d'une certaine façon, nous suivent dans les séquences de temps. De là, on peut concevoir comment ces espaces et séquences de vie et contexte en mode représentant et représentation vont se traduire en mode plan et traduction dans une forme de structuration des espaces de présence et de conscience pour la personne, mais qui inclut toujours sa propre présence dans et au travers de son média, d'une certaine façon radicale qu'est son corps. On peut fixer et formaliser ce type de situation dénoncée. Sur le plan réflexif-image, ils sont comme des énoncés de parole, mais des énoncés de parole où on voit, où on regarderait sans parler. Formalisons leur latence. On peut pour cela leur donner un nom de langage, par exemple les appeler énoncés. À partir de là, on peut considérer que la personne vit et est mise dans une situation pas totalement réaliste, qui est en partie comme l'image d'un rêve ou d'une fiction ou d'une réalité pas totalement réalisée. Et comment elle est prise dans des énoncés, dans des contextes de sa vie sur ses propres scènes, et comment elle les vit et en partie les performe. Les contextes et situations existant comme des données en soi, de fait et en grande partie non choisies ou s'imposant de fait et par leur fait. Là encore, on peut métaboliser, agrandir les schémas représentatifs et les formes de conscience ou d'image de conscience. Nous venons de constituer comme un grand schéma de représentation pouvant être représenté et schématisé lui-même dans une transformation de fidélisation, dans une transformation appropriée dans l'espace, ou du moins ce que nous appelons et concevons comme l'espace, en mode d'une sorte de dépliage et agrandissement d'un espace de volume déplié en mode plan. Ou encore, nous avons là comme une figure de représentation de la réalité ou pouvant tenir lieu. On pourra comprendre comment j'utilise ce mode de pensée et de schéma. On peut aussi convenir que la notion et non de schéma représente des réalités sur un mode d'architecture ou architectural et de développer dans l'espace qui, là, dans ce que je présente, tient lieu de conscience. Mot-clé 6, entrée et sortie. Séquence 6, représentativité du soi ou triade réalisée dans l'espace. Nous pouvons retenir maintenant, comme en arrière ou à reculons, en revenant sur nos pas, comme en arrière, pour progresser à nouveau ou reprendre d'une représentation image que nous avons. Imaginez une séquence assez complète ou représentative de quelqu'un dans sa façon d'être ou comme ne se sentant pas surveillé ou épié. Et à partir de ce schéma, de cette image et compartiment, vous demandez comment la personne pratique son soi ou son ou ses contextes dans ses formes de réalité interne et comme équivalent de comment elle pratique son corps et son soi. Nous pouvons prendre au sérieux et comme quelque peu au littéral, ayant de la signification ce qu'elle pratique et comment elle le pratique dans ses formes et modes d'intimité ou de secret d'une certaine manière, comment elle pratique, et pas seulement ce qu'elle est ou qui elle est, sur l'espace des perspectives et de son soi, comme mode de pratique de soi, de pragmatique de soi et de ses contextes également. Et comment, si elle produisait ces contextes, que ce serait quelque chose comme tout comme, et en étant donc en partie productrice de tout en les vivant ces contextes et pratiquant dans ces formes de conception et organisation propre personnelle. Voilà donc un codage à considérer, bien que dans des cadres modèles impliquant leur pratique et reconduction dans une forme d'autonomie de la personne. Et en cela, il ne s'agit pas de penser à sa place, ni pour elle, ou encore pour reprendre la question en mode structural et conscience, et sa chaîne d'énoncés. Comment ces énoncés qui la représentent, et où elle se présente et représente, et se rend présente, se traduisent en mode de contexte et de conscience de présence qui existe en soi, ces contextes. Voilà une sorte de recadrage au sein des représentations et des images de présence de la personne. Là, dans ce type de cadrage ou de focus, elle n'est pas seule ou seule à soi assurément, mais on peut la reconsidérer comme étant le centre en mode de conscience et d'existence, dont le centre serait le soi, le self, et qui est son soi et son mode de présence. Cette image et ce centrage est distinct de ce qu'on appelle ou pense comme étant l'ego, ou la seule pensée de l'individu assemblée dans l'unité représentative de son corps et l'image de ce que serait son psychologisme ou sa pensée. C'est là un mode de présence comme sans image véritable, mais comme en centrage et en présence de et par son corps comme réalité immédiate, comme image de présence et de conscience, et dans cet ensemble ouvert que constituent ces ouvertures par ses perceptions pour ses perceptions. La personne vit et réalise son moi subjectif ou son correspondant, soit la symbolicité représentative d'elle-même et de sa vie. On peut parler là, en quelque sorte aussi, à un niveau non réducteur d'instinct vital. Encore faut-il que la personne veuille vraiment rentrer en dialogue et ou qu'elle soit mise dans cette position d'entre-deux, en mode traduction et communication, et comme communicant. Mais on peut aussi l'interpeller en mode d'agrandissement des schémas et images de présence et de conscience, ou de conscience des présences. Cela demande de concevoir en mode de pratique et de réalité, et en mode de réalité des pratiques et des conceptions, une sorte de vraie révolution en manière de conception et d'entendement, intervenant au sein des espaces de conception possibles, et cela pour rendre présents les occurrences et alternatives possibles intervenant au sein ou à la croisée du vécu des situations. Quel est l'enjeu en mode de conscience, de représentativité, ou disons de self total ou global, ou comme enjeu de rôle, comme dans un jeu de rôle total. Dans le fait de vivre sa vie et de pouvoir déjà se la représenter en mode de tissage et de coup ou d'opportunité en interne, et sans s'imaginer le pouvoir total du subjectif. L'enjeu, selon moi, est l'objet comme un grand énoncé et tissage des réalités, voire sécrétion de celles-ci, et ce qui est le propre de notre espèce, étant de pouvoir coder et recoder, recadrer dans le temps, dans le vécu de la dimension du temps et de l'espace-temps, ce qu'il en est de notre vie et de nos considérations. Et ce codage, recodage, étant conçu pas seulement dans la distance ou l'imagination, des distances en termes de séquence d'événements, comme étant extérieures aux individus, ou encore comme une situation instituée bloquée, mais de redoubler à partir d'un point de vue d'un cadrage, d'une scène ou d'un tissage plus large. Dans le cadrage d'une scène ou d'un tissage plus large, dans la constitution de ses vécus et scènes de vécu. En mode propre et subjectif, d'une part, comme nominal, mais aussi comme représentant une forme de chronique de soi interne aux épisodes et contextes de vécu inclus dans cette espèce de journal implicite de chronique de soi. Ce qui, en amplitude, change la vision de ces vécus, types et formes de vécu, voire l'idée du schéma de ses propres actions ou de ses déterminations. Le théâtre interne s'agrandit, et aussi dans l'idée de leurs assemblages, en mode de scène de synchronisation et d'habitation interne, et aussi en vécu en temps propre et interne. Et cet ensemble d'ensemble, dans sa figure latente, crée aussi des correspondances en mode temps et conception sur un schéma image et conscience du temps, comme un espace existant propre, comme à distance de soi, ce qui n'exclut pas et nullement notre temporalité actuelle et notre et nos présences de corps et corporéité. Mot-clé 6, entrée et sortie, séquence 7. Reprise à distance en schéma de projection synchronique, les états de conscience et états de conscience et de corps. Reprenons les schémas, images du corps, dans les assemblages synchroniques du corps, tels qu'on peut les concevoir. Nous les avons rapportés au vécu et situations comme premier panel, et de ce fait aux situations potentielles d'émotions et de sentiments dans leur fonctionnement implicite, que je ne peux décrire là pour ne pas trop étendre les schémas. Et comme transportant avec nous nos états de conscience, ou ce que nous appelons, ou encore nous nommons notre psychisme, ou notre esprit, comme ensemble, pactage, ou conception de valise mentale en mode fixe. Et réarticulons nos capacités comme si nous transportions notre corps et toutes ses compétences et ses états avec nous, comme dans un bagage en mode corps et esprit. Revoyons tout cela comme une vision, en espace de projection, espace vectoriel ou potentiel, comme existant en propre, à distance, au-delà de soi, et comme voyant à distance les réalités se dérouler sur notre écran de présence, les revoyant se dérouler. Ce qui demande de concevoir un espace d'imagination et de capacité d'imagination comme transposition de l'image, des visions et des perceptions. Nous pouvons alors concevoir de nous corréler et transporter en des espaces de représentation en mode espace, dans l'espace et le déploiement de l'espace, de la vision, lecture, évocation, et comme une élévation dans l'échelle de la présence, ce qui nous plonge alors dans des états particuliers de sensations en rapport avec la présence et les types de présence et leur codage-décodage, traduction à faire ou réaliser, et pas seulement comme a été décrit le mode et l'univers de la crise d'épilepsie telle qu'elle le réalise, et le mode critique dans quoi la personne est plongée dans le parcours et le résidu de cet état. Mais au-delà d'un épiphénomène comme grille et comme conception, comme une sorte de retournement de la voyance et de la présence, transposant les états de présence et de réalité de la personne dans son rapport au vécu. Là, il faudrait consacrer un chapitre spécial entier, pour le moins, à cette vision de vision de vision et son transport dans le cadre des pulsions, impressions et sensations, leur cadre et leur grille. Grille de la présence dans la pulsion des sensations et des sentiments du corps, corps qui figure alors comme une passion, passion du corps comme des sentiments, mais pas seulement comme réservoir ou rétention en soi, de type biologique dans les canaux du corps, mais comme écran et médiation dans la présence au sein du ou des vécus, et interposition dans les raisons de la réalité, et cela pour nous transporter vers les images et les sensations évoquées, ou en évocation, ou réévocation. Voilà le tableau cadre, dirais-je, de la conception du travail et de la création, car dans la vision transfert, il y a en jeu une création et recréation importante, radicale, à partir des énoncés du psychisme, qui peut-on dire, pour imiter Freud, traverse ou tombe sous le coup de la pensée de l'esprit. Et cela, y compris dans les scènes de présence, ou pour et dans les scènes de transfert et d'évocation à distance, dans la distance et dans la sensation du temps. On peut comparer la transposition comme une ascension et la montée d'une échelle, comme l'échelle de Jacob et ses différents échelons, comme l'effet et produit qui surgira de la transposition. Mais ce qui est difficile à décrire et réaliser est que la transposition s'effectue dans la présence, que cela soit à soi-même une tâche intellectuelle en cours, une vision de son corps et de ses sensations en mode passif ou actif, en articulation et sensations dynamiques de son corps produites et recherchées pour lui et par lui, ou les effets reçus et recueillis hors de focalisation dans la pratique courante de son corps et de sa personne, comme en forme de gestion automatique de ses besoins ou de ses contraintes. Bref, tout cela s'effectuant par les canaux sensoriels de son corps, évidemment, mais de façon redoublée, pour le moins, si on considère ces canaux et vecteurs sensoriels et les réalisations images et images de présence que ces canaux constituent, et comme le toit et la toile de fond de ces présences, et qu'ils constituent et traduisent en toute inconscience, en mode projection devant soi et en mode de vision et de perception, justement, y compris recomposé. Difficile de se rendre compte, présent, et d'imaginer ce retraitement focal, et d'apprendre à le manier, conceptualiser et considérer dans le cadre et la vision de recadrage qu'il demande, et plus précisément comme écoute, présence et lecture mentale, dans des termes images, à ses propres présences et réalisations de présence, et comme mettant à distance son corps, tout en le rendant présent, voire beaucoup plus présent, et comme un ou des tableaux où ne manquent pas des sensations, éventuellement figées, collées, empaquetées, conglomérées, et dans des formes de rites et d'impensées, dans les trajets de type motricité, par exemple. Bon, là, il y a plus à développer. Je veux dire par là, pour préciser, qu'il ne manque pas de la colle sensorielle, et peut-être aussi de l'absence. Mais ce qui peut être manquant, c'est la qualité ou la capacité de transposition, c'est-à-dire le bloc, masse ou atome de sensation à qui ou à quoi il manque les mots et là où les paroles d'articulation et réarticulation des espaces et au sein des espaces de vécu. C'est donc alors dans les présences, leur écran, leur épaisseur, leur interposition, et au travers des présences, qu'on doit considérer l'écran et les données sensorielles. Comme on parle et on évoque la transe, ou les épisodes de conversion involontaire, qui sont comme des crises de présence ou d'absence, des crises comme des crises de type épileptique. Et c'est là qu'il faut évoquer les phénomènes de vision ou de réalisation, de lecture, de réarticulation mentale d'une certaine façon et considération mentale, et comme transposition de morceaux de sensations qui sont bien comme des morceaux de sensations très corporelles, éprouvées dans la réalité des présences, voire la fulgurance du moment. Et là aussi, il y a beaucoup à dire sur la question de la douleur et des sensations de la douleur ou des sentiments extrêmes. La transposition est donc comme une lecture, écriture et réécriture, à distance, dans la capacité de là où des distances, mais aussi dans le morceau de l'instant, à partir des positions et des sensations de présence du lecteur ou de celui qui est le présent, et dans et au travers de cet écran des capacités qui joue comme obstacle, mais aussi écran de capacités permettant de réaliser dans le mode des capacités de caméra, corps-esprit, en mode de corps, réalité, présence, dans le moment de sa présence. Et je dis cela contre les psychanalystes ou les tendances communes qui ne jurent que par les images ou par l'oral. Car le sens de l'écriture, dans la transposition et dans la compréhension de l'oral, et pas seulement dans l'interprétation et dans l'entendu, donne une version plus complète et importante et un complément essentiel aux illusions de l'oral. Et comme image, c'est comme une lecture à l'envers, et qu'on ne saurait faire sans sens actualisé, du différé, dans le temps, qui pourtant actualise la présence et ses modes. Et c'est en cela, par exemple, que le rêve, comme fenêtre du corps et de l'esprit, s'inscrit comme différé, suspens et transposition de certains sentiments du vécu ou des émotions, comme vécu et comme révision ou nécessité de révision. Mot-clé 6, entrée, sortie, séquence 8. Les conceptions développées en mode écran. Pour comprendre, il faut écrire et en faire le geste, et pas seulement se contenter de l'écoute dans la fixation et la suspension en mode corps oral et fixé. Il faut comme retraduire, retranscrire le geste de produire et créer de la langue et du langage. Ce qui cependant est un des bons procédés de conscience, l'écoute orale, comme on dit, présence et réécriture, au sens des éléments émis en mode oral, de langage. Mais cela n'est pas suffisant, d'autant qu'il est inconnu au plus grand nombre, cette dimension. Mais on parle et écrit avec le corps, et tout le corps, comme on conçoit, je dirais, avec quasiment toute la totalité du corps, et il faut le savoir. Et pour parler et éprouver des sensations, il faut faire le geste de les objectiver dans la surface du moment. Il faut faire même un geste avec et au moyen de son corps, comme le maniant pour un de ses bouts, pour articuler du corps et du langage, au travers du canal et du média de son esprit, comme caméra mentale, mais qui implique son corps et son esprit. Mais le langage doit s'élever au-dessus du conversationnel ou du boudoir de la confidence auditive. Et cela pour rejoindre la dimension de la vision et de l'être présent et de l'être assistant. Et pour cela, il faut disposer, comme d'un grand tableau, comme dans une salle de cours ou d'un écran, en mode de projection filmée, en vue de cette projection, dans ces canaux sensoriels, corps et esprit. Il faut aimer le tableau pour son inscription, ce qui s'y montre et sa vision, comme par un regard en mode exposition et image, mettant en face de la beauté qui fixe de l'écriture et du signe, et implicitement du langage, quoi qu'il en soit. Chose que dans sa forme de transcendance, beaucoup ne supportent pas ou ne vouent qu'au signe de la maîtrise ou de la souffrance mentale, en quoi ils le réalisent dans le vécu. Mais pas du tout associé et transcrit en forme d'amour, amour de l'amour, amour d'apprendre et de savoir, comme phénomène et miracle de transformation de la maîtrise ou des maîtrises ou du dominant, y compris concernant les pratiques courantes et comme mise en signe, lecture et écriture, qui sont implicites dans les transmissions. De ce fait, lire c'est prendre ou reprendre possession de sa vie dans des formes de transcendance et de passation, ou d'y trouver enfin, comme pour ainsi dire, sa place et son rôle. On peut maintenant entrevoir la transposition didactique et apprenante comme la leçon délivrée par un œil dans une énonciation transformée en écriture. Et écriture qui s'écrit ou se réécrit comme en sensation directe dans la merveille de s'écrire ou de s'inscrire. Nous devons pour cela nous apprendre à distinguer et départager les espaces de présence et les espaces habités dans et par et au travers de sa présence. Et nous avons là présents les schémas de nécessité de lecture, reconsidération, reconstitution, recognition et transfert. Et pas seulement transfert et imagination transférés sur les personnes, mais comme traduction au travers des lunettes de son corps et des fonctions de son esprit, et dont les lettres doivent se constituer. Pour cela, il faut penser en termes de traduction, image et transfert global ou total, et avoir des connecteurs dans l'esprit de contact et recontact dans ces formes de présence et pratique, que j'appellerais des transducteurs. Ce qui fait concevoir l'échelle en question dont j'ai parlé et les échelons ou les étapes intermédiaires. Ce qui me fait parler d'intervalles et d'espaces intermédiaires ou virtuels qui permettent de jeter des ponts comme des verbes indispensables pour traduire, penser, transposer, traduire le ou les le langage entendu, autrement que selon seulement des codes communs massifs ou conversationnels, académiques ou rituels de groupe, sans recréation interne pour l'étiquette des sensations. Il y a donc là des ensembles, y compris imaginatifs et abstraits, que je vise à traduire dans un ou des espaces autres de traduction et de correspondance, que j'appellerais par exemple des espaces de traduction transduction ou transducteur, c'est-à-dire en espace d'espace qui condense en soi plusieurs espaces comme assemblée, comme en numéral, ou possiblement la totalité des espaces collectés qu'alors on traduit ou on cote en dimension infinie ou non finie. C'est-à-dire aussi qu'on peut réduire le vécu à des sensations, des signes ou du symbole dans sa ou ses lectures vitales. Je vais m'arrêter là, car certes, j'ai encore beaucoup de choses à dire sur le modèle, leur conception, leur vision, lecture et transformation, et les besoins d'appui pour créer, travailler et permettre d'aider les personnes à se créer. Mais il faut réserver cela pour d'autres développements que le titre générique présent. Je termine là ce passage seulement en forme de témoignage en disant ceci. C'est pourquoi, dans ma conception de médecin, de soignant et de passeur ou transmetteur, mais aussi comme homme et comme personne, en m'identifiant et dans la théorie que je m'en fais, je conçois ma fonction comme étant celle d'une forme de passeur mental et social dans ma transindividualité, dirais-je, en rapport avec ces scènes globalisantes et leurs besoins de constitution à partir du vécu ou des vécus dont les personnes sont le lieu et les témoins.